Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En France, 80% du territoire est occupé par 20% de la population. On appelle cela le monde rural, une France dite profonde, étendue donc où continuent de vivre et travailler les quelques 500 000 exploitants agricoles qui font encore de la France la première puissance agricole d'Europe. Mais côté foi, la réalité est moins glorieuse car si nos campagnes restent encore un monde de tradition chrétienne, Dieu ne s'invite souvent dans la vie des Français qu'à la naissance ou à la mort. Partant de ce constat, les évêques de France veulent relancer dans le monde rural un élan missionnaire avec comme fer de lance les rassemblements Terre d'Espérance. Coup de zoom sur les rassemblements Terre d'Espérance, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous en parler, Joël Morlaix, vous êtes prêtre délégué national pour la mission dans le monde rural et coordinateur de ces rassemblements Terre d'Espérance. Bonjour.
Bonjour.
Va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est prise dans les embouteillages. Ernestine Grotteau, qui est responsable du rassemblement Terre d'Espérance de Palleville, dans le diocèse d'Albi. Et est avec nous Sylvain Bonaldo, agriculteur bio, responsable écologie pour le diocèse d'Auch et co-responsable du rassemblement Terre d'Espérance pour ce même diocèse. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous, Joël Morlaix, pour présenter ces rassemblements Terre d'Espérance. Mais avant ça, ça vaut le coup un peu de parler du monde rural. Alors une radio comme la nôtre, on diffuse surtout dans le monde dit rural. Derrière monde rural, en fait, il y a de multiples réalités, assez variées. Hein, ma présentation était vraiment, on va dire, à la serpe.
Je confirme.
Voilà. Comment vous présenteriez le monde rural? C'est justement ces 80% du territoire et ces 20% de population, ou est-ce beaucoup plus subtil que ça?
C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus complexe et surtout diversifié. Il y a des mondes ruraux très divers les uns des autres. Il y a ceux qui, effectivement, peuvent connaître une certaine relégation, mais il y en a d'autres qui, au contraire, sont en développement. Et puis tout cela est lié aussi aux possibilités de vie qui existent sur ces territoires. Certains accueillent plutôt plus d'habitants qu'il y a quelques années, d'autres se vident, mais c'est très divers.
Alors c'est très divers, c'est pas forcément le sujet de l'émission, mais côté diocèse, vous diriez que des diocèses du monde rural, sur tous les diocèses que compte la France, c'est-à-dire à peu près 90 si je ne me trompe pas, il y en a combien qu'on peut considérer comme étant du monde rural? Quelle proportion?
Ah, où la dominante est rurale, il n'y a que quelques diocèses qui échappent, comme Paris bien sûr, comme Marseille, mais il y a bien 60-70 diocèses français où la réalité rurale est très importante.
Alors ces rassemblements Terre d'Espérance, on va en parler, ils en sont au début, c'est une décision des évêques de France pour essayer de relancer un élan missionnaire dans tous ces diocèses, donc ça en fait beaucoup. Monseigneur Jacques Habert, qui est donc évêque de Bayeux et Lisieux, et qui coordonne donc pour la conférence des évêques de France avec vous ces rassemblements, dans une récente présentation qui est proposée donc à tous ceux qui participent à ces rassemblements Terre d'Espérance, un petit mot d'introduction, il commence un peu par situer les choses, disant qu'il y a quatre grands enjeux autour du monde rural: l'agriculture, l'écologie, la démographie ou les questions politiques. Avant de parler de la vie de l'Église, qu'est-ce que vous portez avec la petite équipe, on va dire, qui dirige ces rassemblements Terre d'Espérance? Quelles sont un peu les grandes problématiques actuelles du monde rural?
Bien, je rejoindrai ce que disait Monseigneur Habert, c'est-à-dire c'est vrai que les évêques sont partis d'un souci qui était que l'Église risquait de s'absenter peu à peu du monde rural, du fait des mobilités et des flux de population. Le risque est dans une diminution de la participation à la vie de l'Église. Les gens se concentrent peu à peu vers les villes, donc c'était de dire « mais il ne faut pas qu'on abandonne les campagnes ». Mais en même temps, dans ce souci d'annoncer l'Évangile, l'Église voit bien que dans le rural aussi, il y a des enjeux, c'est-à-dire il y a ceux de l'agriculture et de l'écologie. Et puis, il y a cette importance renouvelée, surtout en cette époque de pandémie, d'un intérêt pour le monde rural. Il se passe des choses dans le monde rural. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pauvretés qui peuvent être spécifiques au monde rural, du fait des distances, du fait du manque d'équipement. Donc il y a là des enjeux pour l'Évangile qui sont importants, et c'est aussi ça qu'on veut rejoindre.
Alors si on commence par le début, le monde agricole, dans le monde rural, il n'y a pas que des exploitants agricoles, mais mine de rien, c'est quand même là qui sont et qui travaillent, et puis c'est une partie de la fierté de la France, hein. Il n'y a qu'à voir souvent la réaction de l'opinion publique quand les agriculteurs mènent des grèves, souvent ils sont très empathiques ou très favorables. Il y a à peu près donc 500 000 exploitations agricoles aujourd'hui en France. Les évêques ont pris l'habitude d'aller au salon de l'agriculture. En 2020, je crois qu'ils étaient 18. Oui, parlez-nous de cette habitude. Qu'est-ce qui les a décidés?
Ils ont voulu manifester aux agriculteurs leur intérêt. Disons que l'agriculture, les agriculteurs sont minoritaires aujourd'hui dans le monde rural, hein. Lorsqu'on parle du monde rural, c'est quelques pourcents les agriculteurs. Dans certains cas, c'est à peine 10% de la population dans certains espaces ruraux. Mais ceci dit, c'est quand même eux qui entretiennent une grande partie du territoire, et ça c'est un enjeu, hein, l'occupation de l'espace. Et puis, ils sont quand même les fournisseurs de ce qui est quelque chose d'essentiel pour notre humanité, qui est l'alimentation. Donc il y a là une importance qui est liée à leur rôle dans la société.
Alors, je vais vous taquiner un peu, mais on se dit pourquoi est-ce que les évêques, en fait, n'y vont que depuis récemment au Salon de l'Agriculture? Et puis, quand on lit Mgr Jacques Habert dans certaines interviews, j'ai trouvé une interview qu'on pouvait trouver sur le site de la Conférence d'évêques de France, il disait « Nous allons pour découvrir, rencontrer, prendre connaissance des nombreuses réalités liées à la vie et au travail des agriculteurs ». On se dit qu'on imagine qu'ils n'ont pas besoin d'aller au Salon de l'Agriculture pour ça.
Oui, tout à fait. Il faut reconnaître que c'est un peu médiatique. C'est médiatique parce que chaque évêque peut, dans son diocèse, aller à la rencontre des agriculteurs. Et c'est ce que beaucoup font, notamment Jacques Habert le fait. Et je vois après-demain soir, les évêques de chez moi, dont Mgr Éric de Moulin-Beaufort, vont rencontrer les responsables agricoles de la région. Donc on n'a pas besoin d'aller au salon d'agriculture, effectivement, pour voir quelles sont les préoccupations des agriculteurs et se dire mais en quoi consiste pour le fait de leur annoncer l'Évangile, et quel Évangile, quelle bonne nouvelle pour eux, dans les questions nombreuses, hein. Le monde agricole se pose beaucoup de questions.
Alors quand vous dites que c'est médiatique, le but du jeu c'est quoi? C'est que les Français se disent, tiens, l'Église s'intéresse au monde agricole,
voilà.
C'est ça?
Oui, je pense. Puis c'est l'occasion pour certains, tout d'un coup, de rencontrer certaines réalités très pointues qui se manifestent au salon d'agriculture, et puis aussi de se retrouver les évêques pour qu'ils puissent échanger entre eux sur ce que sont ces réalités agricoles et comment eux essaient d'y annoncer, d'y avoir une parole.
Alors, Joël Morlaix, quid de la situation de l'Église dans le monde rural? Quand je disais aussi à la SERP que dans les campagnes, si ça reste un monde peut-être de culture chrétienne, souvent on ne va à l'Église qu'à la naissance et à la mort, je ne suis pas très loin de la réalité.
Je dirais volontiers la même chose que pour la réalité rurale, qui est très diverse, mais l'Église dans le monde rural, c'est aussi une réalité très diverse. Et c'est vrai qu'on peut voir effectivement que globalement, l'Église en monde rural est vieillissante, voire dans certains cas, devient clairement anémique. Mais justement, le but de Terre d'Espérance, c'est d'aller à la rencontre de tous ceux qui, au contraire, font vivre l'Église et portent des signes qui sont forts.
Alors juste avant qu'on y vienne, on se dit quand même, quand on n'est pas du monde rural, quand on est des villes, c'est donc une partie importante de la population, comment ça se fait? Parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, les campagnes françaises, c'est quand même vraiment le lieu de la tradition chrétienne. Quand on se promène comme ça dans les campagnes françaises, on voit des calvaires, des églises dans chaque village. Si vous deviez, on va dire de manière très grossière, hein, nous dire ce qui s'est un peu passé, c'est quoi? Il y a eu un creux avec la génération du baby-boom et ça a suffi à ce que les choses s'écroulent. Comment ça a pu basculer aussi vite et puis dans un lieu apparemment normalement aussi résilient, on va dire?
Il est résilient parce qu'il y a un patrimoine important qui fait qu'on se dit, mais tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que c'est encore utile? Effectivement, on peut se poser la question, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas trancher ruraux, urbains. Aujourd'hui, les gens sont très mobiles et passent de l'un à l'autre. Et c'est un même phénomène qui a touché les villes comme les campagnes, c'est la sécularisation. C'est-à-dire que dans les années 60-70, peu à peu, même pour moi qui ai habité dans un village où tout le monde était pratiquant à peu près, la religion s'est dissoute. Du fait d'évolution des mœurs, de la manière de vivre, des habitudes de vie, et qui fait que les gens ont pris beaucoup de distance par rapport à l'Église, même si effectivement, comme vous dites, ils peuvent encore faire baptiser, encore il y en a de moins en moins, et c'est vrai à la campagne autant qu'à la ville, mais il y a encore les enterrements, mais ça c'est la génération qui a été formée dans l'Église. La sécularisation, elle touche le rural comme les villes.
Alors, quel a été en fait l'élément déclencheur pour que les évêques lancent ces rassemblements Terre d'Espérance ? J'avais entendu parler aussi des rencontres du GIEC, avec cette question « Église, que fais-tu du monde rural ?» C'était, sauf erreur de ma part, en octobre 2020. Quand est-ce que les évêques se sont dit « Bon là, il faut faire quelque chose » Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la genèse ?
Ah, ce ne sont pas les rencontres du GIEL qui ont déclenché ça, hein. Faut être clair. Non, c'est une conscience qui remonte déjà à une dizaine d'années, c'est-à-dire que c'était le fait de ne pas pouvoir mettre de prêtres dans le rural, d'avoir de moins en moins de prêtres, et donc la tentation pour un évêque, c'est de le mettre là où convergent les mobilités, c'est-à-dire en ville. Et donc, mais quid du monde rural ? Ça, c'est une question que moi, je vois depuis une vingtaine d'années, de sentir que, est-ce qu'on a le droit de délaisser le monde rural ?
Alors, quel est le but de ces rassemblements Terre d'Espérance ? On entend derrière le mot qu'il s'agit de ranimer l'espérance, et on imagine que c'est l'espérance avec un grand E. En préparant l'émission, les autres invités qui sont autour de ce plateau et puis d'autres interviews que j'ai pu lire, on entend aussi qu'il faut presque se préparer à nouveau à une première annonce, donc à changer complètement de logiciel et à redevenir missionnaire dans son propre pays. Est-ce que c'est ça la fine pointe des rassemblements Terre d'Espérance ?
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se poser la question de la vitalité de l'Église dans le monde rural, comme partout en France, mais ce qu'on peut remarquer lorsqu'on voit les expériences qui sont remontées, hein, parce qu'on veut que cette opération Terre d'Espérance, ce rassemblement, parte de ce que les chrétiens font à la base, ce qui se vit déjà. Et donc, il y a 320 expériences d'innovation qui sont remontées pour préparer, qui vont être la matière première de ce rassemblement. Donc il y a un dynamisme des chrétiens dans le monde rural, pas partout bien sûr, il y a des lieux où il ne se passe rien ou pas grand-chose, mais il y en a d'autres qui essaient d'innover, à la fois pour dynamiser les communautés chrétiennes, mais aussi pour être présents aux enjeux du monde rural, ceux de la pauvreté, ceux de l'animation du monde rural, celui des préoccupations écologiques, celui aussi des recherches spirituelles qui habitent nos contemporains, parce que même s'ils sont pris de la distance par rapport à l'Église, il reste souvent habité d'une recherche spirituelle. Et donc, comment l'Église, dans un certain nombre d'expériences, déjà actuellement, les rejoint et arrive à faire vivre des communautés chrétiennes.
Alors, on va peut-être une dernière question avant qu'on donne la parole à nos autres invités. On va se pencher donc sur le prochain rassemblement qui va avoir lieu dans le diocèse d'Albi, et puis on aura un retour sur ce qui s'est tenu donc dans le diocèse d'Auch. Si j'ai bien compris, donc en avril 2021 devait avoir lieu dans chaque diocèse une journée, et puis en avril 2022, ça sera 3 jours de rencontres nationales. Est-ce bien ça ? Et puis qu'est-ce qui est prévu peut-être pour ces rencontres nationales de 2022 ? Et puis à qui elles s'adressent ?
Elle s'adresse à tout le monde dans le monde rural. À cause du report de 2021, de cette année, on a proposé des réalisations diocésaines. Et donc, bon, beaucoup n'ont pas pu avoir lieu là où on le proposait, c'est-à-dire le 24 avril, au moment où on le proposait, mais beaucoup on programme ça à l'automne. Il y a plus d'une soixantaine de diocèses qui font quelque chose, comme un relais vers 2022, où effectivement, on espère la présence d'environ 80 diocèses. Au lieu qui est normalement le foyer charité de Châteauneuf-de-Galore, et on pense sur 800 personnes qui vont partager au travers d'ateliers leur réalisation, voir en quoi elles annoncent l'Évangile, voir qu'est-ce qu'elles créent de la relation à Dieu, de la relation aux autres, de la relation à la terre et de la relation à soi-même. Donc ça va être tout un travail par atelier, par table ronde, pour tous ces gens, en sorte de leur donner du dynamisme, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls à faire vivre quelque chose, mais qu'à travers la France, d'autres se donnent pour annoncer l'Évangile.
Voilà, et puis on pourrait citer en pied peut-être de votre intervention le pape François, c'est ce que Ernestine Grotteau m'a suggéré dans les documents qu'elle m'a envoyés. L'église en sortie est une église aux portes ouvertes, elle est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. C'est du pape François dans La Joie de l'Évangile, merci. Joël Morlaix, on va faire une première pause musicale et puis on va continuer de faire connaissance avec ces rassemblements Terre d'Espérance.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur les rassemblements Terre d'Espérance, Terre avec un S, c'est le thème de l'émission Vivante Église ce matin. Pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, Joël Morlaix, prêtre délégué national pour la mission dans le monde rural, coordinateur de ces rassemblements Terre d'Espérance pour la France. Ernestine Grotteau, qui est responsable du rassemblement Terre d'Espérance pour Palleville et dans le diocèse d'Albi et qui est par ailleurs présidente du CMR Chrétien en Monde Rural dans ce diocèse. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes donc arrivé. Et Sylvain Bonaldo, qui est toujours avec nous, qui est agriculteur bio et responsable écologie pour le diocèse d'Auch et co-animateur, on va dire, du rassemblement qui a eu lieu pour ce même diocèse en juin dernier. Allez, Sylvain Bonaldo, Joël Morlaix nous a quittés. Ça a résonné un petit peu ce que vous avez entendu. Dans ce que vous avez entendu de Joël Morlaix, est-ce qu'il y a une ou deux choses qui vous ont un peu frappé, que vous voudriez commenter?
C'est tout à fait dans la lignée de ce que nous avons vu pour le GERS, là, pour Terre d'Espérance, avec forcément un pays avec des communes à réévangéliser, parce que voilà, on a perdu le sens de la présence du Christ. Pour moi, je suis dire que permanent, quand je rencontre des personnes pour des mariages, pour des baptêmes, on me parle beaucoup de tradition et de valeurs, mais pas beaucoup du Christ.
Alors juste, si on prend votre exemple, Sylvain Bonaldo, vous êtes du Gers. Vous avez grandi dans le Gers, dans le monde agricole. Est-ce que vous avez quelle différence vous avez vue entre votre enfance et aujourd'hui? Je sais pas, vous avez connu le prêtre dans la cure proche de chez vous, ou un prêtre dans chaque village et des églises combles?
Ben moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Quand j'avais 10-12 ans, nous avions la messe au village pratiquement tous les dimanches, avec une chorale de 15 à 20 personnes sur un village de 100 habitants.
Et aujourd'hui, voilà, donc, et aujourd'hui
après, il y a eu un trou énorme d'évasion de population. Et puis maintenant, avec la proximité de Toulouse, on est remonté à plus de 300 habitants dans notre village. Donc pour nous, c'est pas le désert, quoi. Au contraire, le village est très animé. Il y a beaucoup de population qui est arrivée. Bon, peu d'agriculteurs aujourd'hui, bien sûr, par rapport à la population, mais une population qui a oublié un petit peu l'évangile, et qui a des traditions, des valeurs, mais qui ne pratique pas.
Ernestine Grotteau, si on prend votre exemple à vous, donc vous êtes aussi vous êtes fille d'agriculteur. Dans votre village, donc à Palleville, vos souvenirs d'enfance au regard de la situation aujourd'hui, quelle différence?
Alors, j'habitais un autre village, Cuctolza, mais c'est pareil, je veux dire, comme a dit le diacre, l'église était pleine, les gens étaient présents, on allait à l'église, sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, on a une église, le bâtiment est là. Mais il n'y a personne pour la recevoir, quoi. Donc, je veux dire, peut-être que ce qu'on a à faire aujourd'hui, puisque l'église s'est vidée de ses gens, c'est aller rencontrer les gens là où ils sont, c'est-à-dire sortir de notre église, le bâtiment en pierre, et aller rencontrer les gens, quoi. Parce que les gens, ils y sont. Je veux dire, si j'habite un village de 300 habitants, aujourd'hui, j'habite un village de 400-500 habitants. Il y a beaucoup de gens, c'est devenu un village dortoir, mais les gens sont là, ils ont des attentes, ils ont des besoins. Alors, par chance, sur mon village à Palleville, on a un regroupement scolaire avec 80 enfants. Voilà, c'est être présent, par exemple, à la sortie des écoles et voir quels sont les besoins des parents, les attentes des parents. Et voilà, c'est aller rejoindre les gens là où ils en sont, partager un moment de leur vie. Et je crois que Terre d'Espérance va les rejoindre dans ça. C'est sortir de notre église et aller voir là où sont les gens, aller à leur rencontre et prendre le temps de les écouter et de voir quels sont leurs besoins. Et
là, peut-être... Vous me disiez hors antenne que l'église était peut-être passée justement à côté des besoins de nos contemporains. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, les besoins, ça va être, on va s'acharner, entre guillemets, s'acharner à astiquer une église. Mais je veux dire, une église qui est nickel, sans poussière, oui, elle est nickel. Mais je veux dire, s'il n'y a personne pour aller la fréquenter, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Qu'une église soit accueillante, le bâtiment soit accueillant, c'est génial. Voilà. Mais s'il n'y a personne pour aller la voir, c'est quand même dommage. Voilà. Ce qu'on a, je pense, à faire, mais ça, c'est difficile parce que...
Les attentes de nos contemporains, quelles sont-elles quoi, pour les gens que vous rencontrez? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quelles questions
ils
se posent?
Quel est le sens de leur vie? Je suis parent, comment je fais en sorte que mes enfants puissent s'épanouir? Voilà, mon souci premier, c'est que mes enfants soient heureux, que je puisse m'épanouir. Et après, la question vient finalement, derrière tout ça, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est qui est important pour moi? Ça vient après. Mais en trame, ils l'ont. Et d'abord, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, être parent de jeunes enfants, moi, les miens sont grands, mais être parent de jeunes enfants, c'est vraiment beaucoup de soucis, c'est vraiment des journées infernales. Vous commencez tôt le matin, vous finissez tard le soir. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, moi, pour venir à Toulouse, j'ai mis un très long temps parce qu'il y a beaucoup de bouchons. Alors, je me dis que si je suis avec tous ces bouchons, être parent aujourd'hui, c'est compliqué. Mais si je n'ai pas un endroit où je peux le déposer, où je peux le raconter, c'est compliqué. Parce que les gens ont besoin de parler, d'échanger.
Est-ce que ce que vous présentez, c'est à peu près la situation, on va dire, dans le diocèse d'Albi? Alors, vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'évêque ou le vicaire général, mais vous êtes quand même président de chrétiens dans le monde rural, donc pour ce diocèse. Qu'est-ce que vous observez
On s'aperçoit que, si on prend l'exemple des agriculteurs, ils se sont rendus compte que les contemporains, les consommateurs ont besoin de manger sainement, de manger bio, sauf que quand vous avez des marchés de plein vent, c'est le mercredi matin par exemple dans mon village, et le mercredi matin les gens travaillent. Donc les agriculteurs ont réfléchi, se sont dit quand même, il faut qu'on puisse proposer une nourriture saine à des prix compétitifs bio aux personnes. Donc ils ont réfléchi, se sont dit quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se sont groupés. Ils ont monté une association, un goût de cocagne, et puis ils se sont dit, voilà, on va pouvoir commander sur Internet, on va vendre le mercredi soir à 18h30, de 18h30 à 19h, on va proposer un marché des producteurs, on va rencontrer les gens et on va leur donner quelque chose de bien. Ils ont amélioré leur site, ils sont passés sur un autre site de vente Internet, voilà. Leur souci, c'était de rencontrer les gens, de discuter les uns avec les autres, pour pas que les personnes soient hors sol, pour pas que les personnes soient loin de la nature, voire... loin de ce qui se fait. Voilà. Être agriculteur aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Ils ont des contraintes énormes.
Alors quand je vous pose la question, comment ça va du côté du CMR, vous me parlez des agriculteurs, là.
Oui, mais parce que les personnes que je côtoie, les exemples que j'ai, parce qu'ils sont vraiment très dynamiques, les agriculteurs. Ils ont envie de... Voyons, comment dire... Que le rural change dans le bon sens, qu'on allait vers le bio, mais aller vers le bio, c'est extrêmement compliqué, c'est des contraintes énormes. Et si les consommateurs derrière ne suivent pas, ça va être très compliqué de passer par ça. Après, le CMR dans le diocèse d'Albi, il faut se rendre à l'évidence, c'est un mouvement qui est vieillissant, ça rejoint 8 à 10 équipes, une cinquantaine de personnes. Ces gens-là sont motivés. Mais voilà, notre souci à nous, comme tout un chacun, c'est d'arriver à rejoindre les jeunes générations, c'est essayer de se mettre à leur écoute et d'être là présent.
Alors, le 25 septembre prochain, donc pour le diocèse d'Albi, il y a donc ces rassemblements Terre d'Espérance qui vont avoir lieu donc dans plusieurs villes de ce diocèse, dont la vôtre, Palleville. Je vous laisserai donner peut-être les autres. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui va se passer, Ernestine Gontaud?
Alors, on a fait le choix de cette journée diocésaine de la mettre...
De la décentraliser, quelque
voilà,
part.
Voilà, merci, je cherchais le mot. En trois villages, Salvagnac, Réalmont et Palleville. C'est-à-dire d'être au plus près des gens, puisqu'on est toujours en période de pandémie. On s'est dit, les grands rassemblements, ce n'est pas pour nous. Donc, on s'est dit, autant se rendre le plus près possible des gens et montrer aux gens que sur le terrain, sur le territoire, il existe des initiatives locales, que ce soit... Alors, pour Palleville, on va prendre l'accueil des migrants, on va prendre l'exemple d'une chorale et l'exemple de ces agriculteurs qui se sont mis ensemble. Sur Salvagnac, je sais que c'est une école rurale qui a réouvert dans un village, et c'est voir comment le maire s'est investi pour que cette école réouvre. C'est aussi, l'appareil aussi à Salvagnac, c'est l'accueil des migrants à travers Marie-Josée, qui, par ses années d'expérience de travail en Afrique, est capable d'accueillir, entre guillemets, les jeunes migrants et qui a vraiment créé un lien particulier avec ces migrants-là. Voilà. C'est comment des personnes se mettent en route et comment des choses naissent sur le territoire. Alors, des fois, c'est à l'initiative de chrétiens, et puis des fois, ce n'est pas des chrétiens qui se mettent à l'initiative. Ce sont des personnes de bonne volonté, mais on sait très bien qu'on n'a pas le monopole de l'Esprit-Saint et qu'il souffle là où il veut. Mais voilà, mais peut-être que nous, chrétiens, on a à rendre compte de ce qui se passe, de ce qui se vit, et à le faire connaître aux autres en leur disant aux autres, écoutez, venez et voyez, et vous verrez, des petites choses naissent. Elles ne sont pas énormes, mais je veux dire, la graine, quand elle démarre, elle est toute petite. Voilà, c'est leur mettre... Voilà, leur montrer que sur le terrain, il y a des choses qui ont un goût d'évangile et que ça vaut le coup d'y aller. Après, ce que
disait... Ernestine Grotteau, c'est donc aujourd'hui place aux laïcs, et j'ai envie de dire, ce sont presque que des laïcs qui sont à la manœuvre ou qui sont valorisés.
Ah oui.
On acte quelque part que le temps est révolu d'attendre que monsieur le curé dise blond ou noir pour avancer.
C'est ça. Mais je veux dire, il faut que chacun, mais voilà, on se met en route. Et si vous
c'est une petite révolution, ça, dans le monde rural. Ça gratte un peu du côté du clergé, parfois, de voir les laïcs qui prennent un peu les choses en main.
Oui, ça gratte un peu, parce que si vous n'êtes pas ouvert... au rural, c'est-à-dire à ce qui se fait sur le terrain. Voilà, c'est, oui, un peu. Je veux dire que ça gratte un peu. Mais voilà, après, il faut arriver à composer avec les prêtres qui nous sont donnés. Je veux dire, nous, les laïcs, on n'est pas parfaits non plus. Donc, il faut qu'on arrive à un temps d'adaptation les uns avec les autres, s'ajuster les uns aux autres et se dire que finalement, le terrain est là, il est à moissonner, quoi.
Sylvain Bonaldo, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet de la place aux laïcs? Le temps est venu des laïcs dans le monde rural. On va voir prochainement à Toulouse, pour le Grand Sud-Ouest, le congrès Mission, qui existe depuis quelques années à Paris, qui est maintenant délocalisé, qui a été fondé par des laïcs. Et ce sont des laïcs qui sont à la manœuvre pour, on va dire, insuffler un esprit de mission dans toute l'Église de France. C'est un peu la même chose du côté de Terre d'Espérance?
Ben oui, oui, les laïcs, vu le nombre décroissant que nous avons de nos prêtres, ben voilà, il faut que les laïcs se mettent en route et puis qu'ils vivent la joie de leur baptême.
Ouais, mais c'est
ils vivent vraiment leur baptême.
C'est une petite révolution sur place, vous en êtes témoin quelque part?
Il y a déjà quelques années que c'est en route quand même, hein.
Oui, mais alors parfois, les laïcs peuvent être engagés, mais ce n'est pas forcément eux qui sont à la manœuvre ou qui décident.
Ah oui, oui, oui. Bon, de toute façon, on en réfère toujours à notre curé, mais on prend des initiatives.
Alors,
pour arriver à ouvrir un peu les églises de nos villages, voilà, bon, nous, sur notre village, on a plusieurs fois fait des célébrations de la parole pour les commémorations du 8 mai et du 11 novembre. Voilà, pour juste avant la commémoration, faire un temps de prière à l'église, montrer quand même que la communauté chrétienne est présente.
Ernestine Grotteau, avant qu'on fasse une deuxième pause, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus dans le détail donc la prochaine journée du 25 septembre? Tout le monde est accueilli. Hein, ce qu'on entend, c'est que ça peut être des gens qui sont dans le monde agricole, des exploitants agricoles, des gens qui habitent dans le monde rural, des écolos, des gens des villes proches, peut-être des villes de taille moyenne qui veulent un peu mieux connaître ce monde. On va y faire quoi au long de cette journée?
Alors le matin, on aura donc une visio du père Jacques Habert qui nous présentera de manière globale Terre d'Espérance.
Donc c'est donc l'évêque de Bayeux-Lisieux qui est le grand chef de Terre d'Espérance.
Voilà, donc on a adapté le programme national, c'est-à-dire qu'on l'a adapté à notre réalité. Au lieu d'avoir la vision, on a bidouillé un truc avec les clés USB, donc on pourra voir Jacques Habert. On a choisi... d'écouter les deux ou trois témoignages qui étaient prévus sur la vidéo. Et puis après, donc, on aura un...
Donc là, le but, c'est quoi? C'est de poser un petit peu le cadre national de ces rencontres.
Voilà, on pose le cadre, on dit qu'on n'est pas tout seul. C'est ça qui est important aussi, parce que sur le terrain, on a beau être deux ou trois, finalement, quand on est réunis sur tous les diocèses, ça fait un nombre important. Joël Morlet disait qu'on attendait 800 personnes à Châteauneuf-de-Galore. Bon, mais si sur le terrain, on est déjà 50 au lieu de 2, ça donne envie de faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, c'est au niveau national. Et puis après, donc, voir des témoignages qui seront proposés par Terre d'Espérance.
Ceux dont vous parliez tout à l'heure, donc?
Non, pas encore. Ça sera l'après-midi. Après, on se prend un temps de... On va réagir par rapport aux témoignages qu'on aura vus. Après, on va se prendre un temps de lecture de l'Évangile. On a choisi le thème de la visitation, c'est-à-dire quand Marie va rendre visite à Élisabeth, et on va d'abord écouter ce texte qui sera lu de manière solennelle, enfin, importante. On va choisir la lecture, et après on va un petit peu faire la lectio divina, c'est-à-dire qu'on va l'entendre, l'écouter et partager ce texte, c'est-à-dire se laisser le temps de l'écouter, et voilà, pour partager vraiment et découvrir que finalement quand Marie se rend au chevet d'Élisabeth, et puis c'est peut-être un petit peu nous qui avons à nous rendre au chevet de nos contemporains et d'aller les rencontrer. Et plus je travaille ce texte de la visitation, plus je me dis que vraiment c'est adapté à Terre d'Espérance, quoi. C'est vraiment celui qui a choisi Il était intuitif. Voilà, c'est vraiment ça.
Après, donc, il y aura la présentation des, enfin, hormis les festivités, les agapes, l'après-midi, c'est donc ces différents témoins dont vous
voilà.
nous avez parlé.
Voilà, l'après-midi, ça sera vraiment
des. Et puis après, des questions, c'est ça ?
Voilà, des questions. Pour de manière à.
Quelques exemples des questions que les gens vont avoir à travailler, qui peuvent secouer
voilà.
un peu les uns les autres.
Voilà, à partir des expériences qui nous ont été présentées, quels sont les signes de vitalité qui nous semblent le plus porteurs d'avenir ? Voilà. Et qu'est-ce qui nous apparaît le plus signifiant pour des gens comme nous croyants, peut-être aussi pour les incroyants, qu'est-ce qui peut toucher les gens? Voilà. Et qu'est-ce que nous, on comporte comme regard positif sur ce qui se construit? C'est-à-dire qu'on a à avoir un regard positif et vraiment, aller rendre grâce, vraiment, comment on peut construire ce monde qui est autour de nous, quoi. Voilà. Et surtout, il faut qu'on l'accueille avec joie et montrer qu'on est souriant, qu'on a envie de croire. Voilà, notre manière de vivre, de croire, doit être un témoignage pour les gens. Si on est un croyant triste, c'est pas intéressant. Si on est un croyant qui est souriant et accueillant, ça peut être poser des questions et interroger les gens.
Il y a une expression du pape François, je crois, une tête de piment vert, il me semble. Il dit ça aussi. Les rassemblements Terre d'Espérance donc, pour le diocèse d'Albi, c'est donc le 25 septembre prochain. Et pour vous, donc à Palleville.
Et alors, je complète, et les autres, c'est Réalmont et
Réalmont,
Salvagnac.
Salvagnac, on redonnera toutes les informations à la fin de l'émission. On va faire une deuxième pause et puis on va entendre un petit peu plus Sylvain Bonaldo. On va parler de son expérience à lui et puis de la manière dont il a vécu la journée Terre d'Espérance du diocèse d'Auch qui a eu lieu en juin dernier.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
de Zoom sur les rassemblements Terre d'Espérance. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Joël Morlaix, prêtre délégué national pour la mission dans le monde rural, coordinateur national de ces rassemblements. Ernestine Grotteau, qui est présidente du CMR, chrétien en monde rural pour le diocèse d'Albi et responsable du prochain rassemblement Terre d'Espérance à Palleville, dans ce diocèse, et Sylvain Bonaldo, diacre permanent, agriculteur bio et responsable, entre autres, donc, de ce rassemblement qui a eu lieu en juin dernier. Alors, Sylvain Bonaldo, on va parler un petit peu de vous. Si je dois vous présenter un petit peu plus, vous êtes donc agriculteur depuis quelques années maintenant. Vous êtes en bio depuis 2010 et on vous tire notre coup de chapeau parce qu'on imagine que c'est une grande aventure et une reconversion qui ne doit pas être facile. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous êtes en charge de la sensibilisation de l'église du diocèse d'Auch aux questions écologiques. Comment ça s'est passé, le rassemblement Terre d'Espérance, on va dire avant, pendant et après? Avant, ça allait pour vous? Au contraire, ça patinait? Vous manquiez d'accompagnement, de dynamisme dans votre mission pastorale?
Eh bien, moi, j'étais un peu seul. Puis, bon, j'étais ordonné en 2015. On a commencé à faire quelques petites actions avec mon ami Didier Prudhon. Et puis ensuite, mon épouse a eu des problèmes de santé, puis moi aussi, donc ça a été un peu en pointillé pendant 2-3 ans, le temps de se remettre de tout ça. Et dernièrement est arrivé notre nouvel évêque, Mgr Bertrand Lacombe, qui m'a relancé par rapport à ces questions d'écologie, et qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier parce qu'il s'investit et il est très... Alors quand il s'investit vraiment dans ces questions de ruralité et d'écologie et il m'a dit mais il faut pas rester seul, il faut monter une équipe.
Alors juste, voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister, c'est-à-dire que vous êtes diacre permanent, vous êtes quand même assez donné, on imagine que votre métier vous prend beaucoup, mais quand je vous ai vu au téléphone avant, en préparant l'émission, vous me disiez que dans le fond, on se sent vite assez seul quand on a des responsabilités pastorales dans un diocèse du monde rural. C'est ça en fait la principale difficulté?
Oui. Mais la difficulté, c'est que bon, je suis quand même pas mal pris par mon travail, et donc pour aller... par-ci par-là dans les paroisses voisines ou plus éloignées pour porter ce flambeau de l'écologie, ben c'est un peu compliqué pour moi, voilà, c'est
parce que ça fait des longs déplacements, c'est ça tout simplement?
Oui, ça fait des longs déplacements, puis bon, peut-être qu'on pourra en faire au moins maintenant puisqu'on s'est initié à la visio. La crise du Covid peut-être va nous motiver un peu plus parce qu'on peut faire des réunions. Bon, c'est le contact, c'est vraiment primordial, mais il peut y avoir des réunions qui sont faites par visio, notamment pour préparer Terre d'Espérance. Mais ben, 2-3 fois, on s'est réunis en visio, ben, on est quand même assez loin les uns des autres.
Et ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui s'est
passé? Ça fonctionne et c'est quand même très pratique. Quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce rassemblement Terre d'Espérance? C'était donc une journée, elle a eu lieu en juin dernier, un peu sur le même modèle hein, que ce que nous a raconté Ernestine Grotteau pour le prochain rassemblement pour le diocèse d'Albi. Donc, il y a un temps d'introduction où on entend les huiles nationales, donc en tout cas ceux qui accompagnent Mgr Jacques Habert et puis d'autres, pour essayer de poser...
On s'est imprégné un petit peu de ce que veulent les évêques de France pour ce rassemblement de Terre d'Espérance par l'intermédiaire de Mgr Jacques Habert.
Voilà, après donc il y a eu des ateliers, vous pouvez nous présenter peut-être les ateliers ou les témoignages qui ont été mis en valeur?
On a eu un temps de prière autour de l'évangile de la Visitation, comme pour le diocèse d'Albi, là, c'est très profond, c'est très porteur. Et après, on a eu 3 témoignages. Le premier, c'était sur l'église verte, une porte d'entrée pour la conversion écologique. Donc, c'est ma paroisse qui s'est investie dans le label église verte, donc c'est moi qui l'ai présenté.
Rappelez en deux mots ce que c'est que le label église verte?
Ben, le label église verte, c'est pour nous aider à amener un peu plus d'écologie dans nos paroisses, dans nos pratiques pastorales, dans nos églises. Nous, on a mis en place le tri sélectif dans toutes les salles de la paroisse. On a acheté les éco-cups lorsqu'il y a des pots. Bon, ils n'ont pas trop servi encore, mais ça va venir. Avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Donc, plus de verres jetables, voilà, ces choses-là. Après... on a invité les gens à faire des nichoirs chez eux, on en a mis nous aussi chez nous, à la maison paroissiale et chez les sœurs des campagnes, des nichoirs à oiseaux, des nichoirs à chauves-souris, voilà, pour augmenter la biodiversité le plus possible, mais donc pas ça... que dans l'église, dans toute la,
dans toute la ville. Alors ça, c'est pour la belle église verte. Et quels étaient les deux autres témoins? Donc il y avait des sœurs de l'abbaye de Boulors.
Oui, qui ont témoigné de la beauté à la mission, l'art de la rencontre dans le projet de l'abbaye de Boulors, le projet de cette grange cistercienne du 21e siècle. Donc ça, c'est le début. Puis elles vont refaire toute l'hôtellerie et tout le magasin aussi. Et le magasin aura une portée missionnaire, ça sera une porte d'entrée vers l'abbatiale et vers la vie spirituelle.
Donc ça, voilà, c'est pour l'abbaye Boulors, cette abbaye donc de religieuses cisterciennes qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Et puis il y avait aussi donc un agriculteur, c'est ça, qui fait de l'agriculture de conservation.
Un agriculteur, Monsieur François Coutan, du côté de Marciac, qui lui, dans son témoignage, c'est prendre soin de la terre, un chemin d'espérance. Et donc il est en agriculture de conservation. Excusez-moi, en agriculture de conservation depuis quelques années. Et là, il est passé en agriculture biologique et il veut continuer l'agriculture de conservation en agriculture biologique. Voilà, c'est un défi majeur qui s'est lancé.
Qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation?
L'agriculture de conservation, c'est pour vraiment prendre soin du sol, éviter au maximum l'érosion en travaillant très peu les sols. Et en gardant une dynamique, en faisant beaucoup de couverts végétaux pour re-augmenter le taux de matière organique des sols, qui permet vraiment d'éviter l'érosion.
Alors, si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, même si c'est récent, Sylvain Bonaldo, ça date jamais que de juin. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en avez tiré comme bénéfice? Et puis, qu'est-ce que vous avez vu de beau, à votre avis, qui commence à apporter des fruits ou qui a porté des fruits?
Ben, moi, j'ai été très conforté. On était une 45 personnes à peu près, ce rassemblement Terre d'Espérance. On a vraiment eu des partages constructifs et donc puis là notre équipe va se retrouver au mois d'octobre pour voir un petit peu la suite à donner et voir ce qu'on va pouvoir tirer de cette rencontre.
Est-ce qu'on a besoin vraiment carrément d'espérance quand on est dans le monde rural comme vous? L'espérance avec un gros, ça finit par faire défaut parce que...
Ben, l'espérance, c'est moi personnellement, depuis ma rencontre très forte avec le Christ il y a une dizaine d'années, parce que oui, j'étais chrétienne, mais j'avais pas rencontré le Christ, voilà. Et quand on rencontre le Christ, ben, ça change tout. Et oui, moi, j'essaie de porter l'espérance par ma joie de vivre, notamment dans les célébrations, les mariages, les baptêmes. Les obsèques, on porte aussi notre joie et notre espérance, hein. C'est des moments aussi d'évangélisation. Mais voilà, moi j'essaie au maximum, quand j'ai des sollicitations, d'ouvrir les églises des petits villages pour les baptêmes. Parce qu'on les ouvre très peu souvent, à part pour les obsèques. Donc voilà, ça me tient à cœur. Et c'est ma contribution un petit peu à cette espérance.
Ernestine Grotteau, peut-être le mot de la fin. Vous vouliez, vous me disiez pendant la deuxième pause musicale, il faudrait que les chrétiens et que ceux qui sont loin de l'Église en fait comprennent combien l'Église est là pour servir la vie.
Voilà, qu'ils comprennent ça et que nous surtout on soit accueillants, qu'on soit vraiment présents à leur écoute. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être 50. C'est peut-être valoriser la vie des gens, leur dire que vraiment la vie est sacrée, que vraiment la vie est première. Et que vraiment, dans toute vie, c'est le chant, là, tout homme est une histoire sacrée, c'est redécouvrir ça, que vraiment, la vie de chacun est importante aux yeux de Dieu, et que vraiment, il est aimé de Dieu. Mais si nous, on n'est pas souriant, si on n'est pas accueillant, ben, on aura du mal à faire passer le message. Voilà. Mais c'est peut-être aussi, on se retrouve comme les premiers chrétiens, on se retrouve à deux ou trois, ben, à aller rencontrer nos contemporains, et peut-être que finalement, ce sera une chance aussi. Parce que quand on est deux ou trois, ben, on arrive à rencontrer plus facilement les gens. Mais ça nous demande de sortir de nos habitudes et de nos facilités. Voilà. Mais c'est peut-être une chance aussi, finalement. Voilà, l'espérance, c'est voilà, oser aller rencontrer les gens là où ils sont et leur dire que, voilà, comme dit Sylvain, c'est aller rencontrer le Christ. Et peut-être que le Christ, je peux le rencontrer dans les personnes que j'ai en face de moi.
Voilà, une église, en tout cas dans le monde rural, ce qu'on entend avec vos témoignages, c'est qu'elle est, on va dire, acculée à être une église en sortie, comme le demande le pape François. Et puis d'aucuns disent que vous avez peut-être une longueur d'avance, parce que ce que vous vivez dans le monde rural, c'est peut-être demain ce qu'on vivra en ville. Donc ce renouveau missionnaire, vous êtes peut-être les pionniers. Les rassemblements Terre d'Espérance près de chez vous, dans vos diocèses, et bien tout simplement, vous vous tournez vers votre diocèse pour savoir quand ils sont avant cette grande rencontre nationale, donc en avril 2022, en tout cas pour le diocèse d'Albi, c'est le 25 septembre prochain, donc en trois lieux, à Palleville, Salvagnac et Réalmont. Vous trouvez toutes les informations sur le site du diocèse ou au standard de ce diocèse. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.